Prédire l'évolution de l'économie, de la valeur des monnaies ou des marchés sont des prouesses que les entreprises doivent aujourd'hui répéter à une fréquence très rapprochée. Le long terme est très difficile à prévoir. Les éléments d'analyse sont nombreux et le volume de l'information à recueillir et traiter est très important. Il faut donc, souvent, régulièrement, faire appel à des spécialistes qui vont fournir un portrait de la situation qu'ils auront chaque fois mis à jour. L'une des questions les plus fréquentes est de savoir ce que sont les perspectives de l'économie. Jean-Philippe Gervais, vice-président et économiste en chef à Financement Agricole Canada, voit beaucoup d'éléments à surveiller, à commencer par le marché du travail, l'endettement des consommateurs et l'interrogation de l'heure, l'économie va-t-elle se redresser ou continuer à montrer des signes de ralentissement?
C'est pas une surprise pour personne qu'on a un marché du travail qu'on pourrait appeler très tendu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de misère à recruter. On a un arrimage entre la qualification des travailleurs et les besoins d'entreprise qui est de plus en plus difficile. Étant donné la situation sur le marché du travail, on pourrait s'attendre à avoir une croissance des salaires un peu plus significative qu'on en a eu dans le passé. Mais il y a aussi certaines choses qui commencent à changer sur le marché du travail. Certainement à l'extérieur du Québec, ce qui a un impact aussi sur votre concurrence, la concurrence à laquelle vous faites face pour les entreprises du Québec. On a le taux de chômage, donc on prend la photo la plus récente de février 2019, puis on recule par bon de 12 mois pour voir un peu l'état du marché du travail. On voit que pour la plupart des provinces, on a une diminution. En fait, les provinces que j'ai choisies ici, Québec, Ontario, Alberta et puis la moyenne nationale, on a une diminution du taux de chômage. On a aussi récemment une augmentation du taux de participation parce qu'il faut comprendre que le taux de chômage, c'est le nombre de personnes qui activement recherchent un emploi sur le nombre de personnes qui sont actives sur le marché de l'emploi. Et donc, on a une certaine diminution, c'est sûr, ça c'était bien documenté. Mais regardez un peu en Ontario, en Alberta. On voit qu'il y a un revirement qui commence à se créer quelque peu. On a un marché du travail qui n'est plus aussi rigoureux, aussi robuste qu'il était il y a déjà quelques mois. Si vous regardez sur les impacts en termes de salaire, qui ont un impact sur votre structure de coûts, bien, on regarde que la croissance des salaires au Québec a été, somme toute, assez constante. On a une croissance qui suit un peu, si vous voulez, le phénomène de l'inflation, un petit peu légèrement supérieure. On aurait pu s'attendre avec un taux de chômage qu'on a présentement, des salaires qui augmentent un peu plus rapidement. C'est l'ensemble des salaires dans le secteur manufacturier. Mais si vous regardez en Ontario, on a une photo un peu inversée. Stable, mais avec l'augmentation du salaire minimum, ça a eu un impact significatif sur la structure de coûts des entreprises de transformation. On a pris le tiers, si vous voulez, des travailleurs les moins qualifiés. Et puis, ce salaire minimum-là, même si ce n'est pas effectif pour certains travailleurs, il a quand même un impact sur la structure de coûts à l'intérieur de beaucoup d'entreprises de transformation. Si vous promenez en Ontario, le sujet numéro un, c'est le salaire minimum. Donc, savoir un peu comment les choses vont se placer, par exemple, ici au Québec. En Alberta, on a un peu le même, sensiblement la même dynamique qu'en Colombie-Britannique. Donc, il y a plusieurs provinces qui poussent à la hausse le salaire minimum. Et ça, c'est un impact sur la structure de coûts. En ce moment, les choses évoluent assez rapidement. Si on parle du marché du travail, bien, le marché du travail de 2019, effectivement, il y a une composante qualification, expertise, etc., qu'il faut solutionner pour être capable d'augmenter notre productivité, mais il y a aussi une composante activité économique. À la fin 2018, le taux de croissance de l'économie, c'était 0,4. Pour l'année 2018, dans son ensemble, on était à 1,8. Donc, tu parles de 1,8 pour l'année entière. Tu arrives à 0,4 pour le dernier trimestre 2018. La prévision avec laquelle on travaille, mais qu'on sait qu'il va être révisé à la baisse, la prévision avec laquelle on travaille pour 2019, c'est 1,7. Donc, ça peut sembler à peu près le statu quo pour l'année 2019 en termes de croissance économique à 1,7. Mais le consensus est qu'on va croître à un rythme annuel de 0,1. Donc, grosso modo, une stabilité au niveau de l'activité économique, pas de croissance en janvier. Donc, il y a définitivement quelque chose qui se passe en ce moment en termes de ralentissement économique. Ça a commencé avec un ralentissement dans le secteur de l'énergie. Le dernier trimestre là, que je parlais, donc en 2018, c'est bien sûr fonction de beaucoup de l'énergie, mais il y a un ralentissement. Un des nuages, si vous voulez, au-dessus de l'économie canadienne, c'est l'endettement des ménages canadiens. C'est quelque chose qu'on met en face beaucoup. Oui, il y a beaucoup de choses positives qui se produisent au niveau des consommateurs qui sont prêts à payer ou à consacrer une partie plus importante de leur revenu discrétionnaire sur l'alimentation avec certains attributs spécifiques, etc. Absolument. Mais il y a aussi une grosse partie des consommateurs qui ont un endettement assez élevé et qui doivent consacrer une plus grande partie de leurs revenus à la couverture de la dette. Une augmentation de 1 % des taux d'intérêt, ça équivaut à peu près à 650 $ pour un ménage moyen là, au Québec, parce qu'au Canada, la moyenne est un peu plus élevée. En fait, au Québec, on est un petit peu plus bas. Un fardeau de taxation un peu plus élevé, mais un endettement un peu plus bas. Ça va à peu près au Québec 650 $ de plus pour un ménage canadien d'avoir 1 % de plus de taux d'intérêt. Dans les 18 à 20 derniers mois, on a eu 1,5 % d'augmentation. Donc, c'est sûr que ça va avoir, ça continue d'avoir un impact. On le voit que présentement, c'est un impact et ça va continuer à avoir. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, c'est pas nécessairement immédiat l'impact des taux d'intérêt sur la consommation. Et je dirais que dans les dernières années, les ménages canadiens ont tiré vers le haut l'économie canadienne. Absolument, il n'y a aucun doute. Si on regarde l'investissement d'entreprise, il n'a pas nécessairement été aussi rapide que la moyenne historique. On a eu des problèmes de balance commerciale. Je parlais du côté énergétique. Oui, il y a eu un certain stimuli du côté fédéral, entre autres, au niveau des dépenses gouvernementales. Mais somme toute, on a eu une économie qui a été tirée à la hausse par le consommateur. Et puis là, on commence à voir un certain ralentissement. Ce qui m'amène à parler de l'impact numéro 2. Il est maintenant plus probable, si vous regardez les probabilités, regardez les marchés financiers, il est plus probable d'avoir une baisse de taux en 2019 que d'avoir une hausse de taux en 2019. Le phénomène a changé complètement. Si on remettait à la fin 2018, en décembre 2018, il y avait une probabilité de voir la Banque du Canada hausser son taux d'intérêt à peu près de 66 % entre le mois de janvier et le mois d'avril 2019. Donc, d'avoir au moins une hausse, on était à 66 % de probabilité à la fin décembre 2018. Maintenant, trois mois plus tard, fin mars 2019, on arrive avec une probabilité de voir la Banque du Canada baisser son taux, pas si forte que ça, environ 15 % en ce moment, mais quand même, on a une probabilité qui est plus grande que zéro, alors qu'avant, il n'y avait aucunement, c'était aucunement la question il y a trois mois déjà. Et lorsqu'on regarde la probabilité de voir une hausse, on est inférieur à 15 %. Somme toute, ce que ça dit, c'est que les marchés anticipent maintenant que les taux d'intérêt, la plus forte probabilité que les taux d'intérêt restent où ils sont présentement, ou que le taux de la Banque du Canada reste où il est présentement.
Mais on est attentif. Comment vont évoluer les conflits commerciaux majeurs, comme celui qui persiste entre les États-Unis et la Chine, et maintenant entre Pékin et Ottawa, à propos du canola? On ne sait pas. Le dollar canadien devrait se stabiliser aux environs de 72-75 cents américains, mais on ne sait jamais. La croissance du marché des protéines végétales ne devrait pas être suffisamment rapide pour vraiment déstabiliser celui des viandes, qui profite toujours d'une demande forte sur la scène internationale. Jean-Philippe Gervais se pose toutes ces questions et d'autres encore. Il voit aussi des choses qui doivent être faites. Par exemple, les entreprises canadiennes doivent diversifier leur marché d'exportation. Question de sécurité. Il constate le grand potentiel de nos entreprises qui peut et doit être développé. Le contexte n'est pas facile. Beaucoup d'éléments sont préoccupants. Il en prend pour preuve le nouvel acronyme américain VUCA, qu'il traduit par VICA, c'est-à-dire volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Alors oui, il faut être très attentif. Spécifiquement à propos du marché des produits alimentaires, un autre spécialiste, Francis Parisien, vice-président Est du Canada pour la maison Nielsen, note pour l'instant quelques phénomènes. Monsieur Parisien, les marchés dans l'alimentation, c'est toujours en mouvance, il y a toujours de l'évolution, des produits qui dépassent d'autres, etc., etc. Actuellement, là, chez Nielsen, qu'est-ce que vous observez là qui est particulièrement en mouvance actuellement?
Il y a deux phénomènes qu'on observe beaucoup au Canada. Un, l'importance des milléniaux, l'importance grandissante des milléniaux. Les milléniaux qui poussent des tendances comme le bio, comme le végétarisme et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on voit également, c'est les consommateurs ethniques. Si ce n'était pas les consommateurs ethniques, dans certaines régions, il n'y aurait tout simplement pas de croissance. Donc, c'est un défi pour les transformateurs québécois de bien servir ces consommateurs-là. Donc, la croissance, nous, on les voit passer par les milléniaux et puis les consommateurs ethniques.
Récemment, on se parlait des protéines. La variété s'étend de plus en plus pour les protéines. Les protéines alternatives sont là maintenant. Bon, ça va jusqu'à l'insecte. Est-ce que vous commencez à avoir des données là-dessus?
Oui, bien, en fait, je présentais des données hier à un congrès d'agriculteurs franco-ontariens. Puis on le voit, la croissance d'à peu près 20 % des protéines végétales. Donc oui, réellement, de la croissance dans ces catégories-là, ça reste petit si on regarde le total des protéines vendues, mais c'est la croissance, ça passe par là présentement.
Donc, c'est pas simplement... c'est pas des mots, là, puis c'est pas une mode, là. C'est quelque chose de réel qui est en croissance.
Oui, vous vous rappelez, l'été passé, il a fait super beau. En fait, les ventes de boulettes surgelées ont diminué, alors qu'il aurait dû augmenter. Puis les boulettes végétales, eux, ont augmenté. Ils ont pris, en fait, la part de marché que les boulettes surgelées avaient perdu. Donc, réellement, je peux pas vous dire c'est vraiment ça qui est arrivé, mais on le voit, là, ils prennent leur place dans le marché, puis ils s'imposent. Surtout avec les plus jeunes consommateurs, les milléniaux sont très portés vers les protéines végétales, puis on le voit dans les données.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Et aucune entreprise ne peut se dire à l'abri d'un rappel de produits. Personne ne souhaite une telle situation, mais ne pas s'y préparer est une erreur, affirme Manon Genet, associée fondatrice de Tact Intelligence Conseil.
En fait, toutes les entreprises de tous les secteurs devraient avoir un plan de gestion de crise. C'est un peu la base pour être capable de s'en sortir correctement si on doit faire face à une crise. Mais c'est encore plus vrai dans le secteur de l'alimentation parce que, bien évidemment, quand il y a une crise dans le secteur alimentaire, les médias s'y intéressent plus et tout le monde se sent concerné puisqu'on mange 3 fois par jour et que, évidemment, dans un cas d'intoxication, il peut y avoir des dommages collatéraux, comme on dit, extrêmement graves. Donc, il faut que tout le monde soit prêt. Voilà, c'est le message principal. Soyez prêts.
Parce que trop souvent, on voit des cas où les gens se disent « Ah, j'aurais donc dû me préparer ».
Bien, tout à fait. Puis en fait, il faut aussi être capable de juger est-ce que c'est une crise ou est-ce que c'est un incident. Parce que réagir trop fortement, on peut créer la crise nous-mêmes. Et à contrario, ne pas réagir assez rapidement, on perd le contrôle et voilà, les informations qui peuvent être erronées peuvent circuler. C'est difficile de les récupérer.
Donc, il faut évaluer tout ça et se préparer en conséquence.
Tout à fait. Et vraiment, ce qui peut faire la différence entre gérer une crise de façon efficace et vraiment perdre le contrôle, c'est la préparation. Et je vous dirais que le Forum économique mondial explique que la valeur des entreprises tient jusqu'à 25 % leur réputation. Donc, votre réputation est quelque chose d'extrêmement important. Il faut la protéger.
Donc, ça justifie de petits investissements, tout compte fait?
Tout à fait. Les investissements sont franchement minimes par rapport aux investissements qui doivent être faits dans le cas où les gens ne sont pas prêts à faire face à une crise et qui doivent essayer de faire de la récupération après coup. Vaut mieux, même financièrement, de façon pour la réputation et financièrement, vaut mieux être prêt à l'avance, je vous dirais.
Merci, Mme Genet.
Merci à vous.
Ici Lionel Levac. Et à propos d'éventuels rappels de produits alimentaires, pensons à la traçabilité qui peut aujourd'hui être très performante. À ce sujet, je vous réfère à un récent blog que je faisais avec le président de Optel, une entreprise spécialisée dans le domaine. Dans un prochain blog, je vous parlerai des visées du groupe Couche-Tard. Au revoir.